Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu à nouveau dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 6, et on va relire les versets 1 à 14. Romains, chapitre 6, les versets 1 à 14. Et voici la parole de Dieu. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et jusque-là, la parole de Dieu. Nous arrivons à la fin de ce passage. Et j'avais dit la dernière fois que nous allions voir ce que Paul disait sur le côté pratique, mais c'était sauter une étape. Parce que ce matin, il y a une question importante à laquelle nous devons répondre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture de ce passage qu'il y a dans ces versets, surtout à la fin, quelque chose de radicalement nouveau dans ce passage. Il y a dans ces versets quelque chose qu'il n'y a pas dans tous les versets qui précèdent, depuis Romains 1, verset 1, jusqu'à Romains 6, verset 10. Et pour nous permettre de répondre à cette question, on va se rappeler un petit peu ce que Paul nous dit dans cette lettre au chapitre 1. Paul a écrit à ses chrétiens à Rome et pour leur dire combien il souhaitait leur rendre visite. Il avait souvent formé le projet d'aller les voir, mais il a été souvent empêché de le faire. Vers la fin de sa lettre au chapitre 15 et versets 22 et suivants, Paul écrit qu'il a maintenant le sentiment d'avoir accompli sa mission en Asie, alors qu'il était envoyé par l'église d'Antioche pour aller dans cette partie du monde, et que maintenant il envisage d'aller en Espagne, et sur son voyage, sur sa route, de s'arrêter à Rome. Paul a couvert toute la partie est de la Méditerranée, et maintenant il regarde vers l'ouest, il veut emmener l'évangile aussi loin, et pour lui c'était peut-être la fin du monde, le bout du monde, mais il veut l'emmener aussi loin pour lui, donc aussi loin qu'en Espagne. Et son but était de s'arrêter à Rome et que l'église de Rome devienne, il l'espère, il le souhaite, devienne en quelque sorte une deuxième Antioche, c'est-à-dire une église qui va l'envoyer dans son ministère qu'il prévoit, qu'il espère pouvoir accomplir en Espagne. Paul n'a jamais été à Rome quand il écrit cette lettre, je vous le rappelle. La plupart des chrétiens à Rome n'ont jamais vu, n'ont jamais rencontré l'apôtre Paul. Ils ont entendu des rumeurs à son sujet. Et l'une de ces rumeurs, c'était que Paul déformait l'évangile. Et on accusait Paul de déformer l'évangile parce qu'il prêchait trop souvent sur la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et Jean disait, ben, Paul, si tu annonces la grâce de Dieu qui est gratuite, cette grâce qui sauve et qui est gratuite, que l'évangile est gratuit, qu'on n'a pas besoin de garder la loi, qu'on n'a pas besoin d'être circoncis ou d'observer quelque chose, si tu annonces la liberté qui est en Christ, à ce moment-là, des personnes vont dire, ben, je crois dans la grâce de Dieu, mais je vais continuer à vivre n'importe comment. Et certains croyants à Rome étaient préoccupés en entendant ces rumeurs, et ils craignaient que Paul ne déforme l'évangile. Et c'est pour ça que Paul doit présenter ce qu'il appelle mon évangile. Voici l'évangile que je prêche. Et on a vu que dans le chapitre premier, il déclare que l'évangile est puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, que ce soit du juif premièrement, puis du grec. Et Paul leur dit, je veux aller à Rome pour être avec vous, pour annoncer l'évangile, parce que je n'ai pas honte de cet évangile, parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour la transformation des hommes et des femmes. Et c'est la raison pour laquelle cela est vrai, c'est que dans cet évangile est révélée la justice de Dieu, cette justice que l'on reçoit par la foi. Et le thème de la justice de Dieu, on le retrouve en fait dans toute la lettre. Et on pourrait presque diviser cette lettre sur ce thème dans les premiers chapitres jusqu'au chapitre 3, verset 20. La justice est absente chez l'homme. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous les humains se tiennent sous la colère et le jugement de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Dieu a pourvu cette justice. Ça, c'est le deuxième point, chapitre 3, 21 à 4, verset 25. Cette justice, Dieu, elle est pourvue par Dieu en la personne de Jésus-Christ. On a lu ce verset en 2 Corinthiens 5, verset 21, qui résume cela. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Ensuite, Paul va parler, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 8, 39, que cette justice que Dieu a pourvue, elle est reçue par nous. Et elle pénètre dans toute notre vie. Chapitre 9, verset 1 jusqu'au chapitre 11, verset 36. Cette justice que Dieu a pourvue, elle est maintenant légitimée, elle est défendue dans la manière dont Dieu a apporté le salut dans l'histoire de l'humanité. Et ensuite, chapitre 12 jusqu'à la fin, cette justice, elle est appliquée dans nos vies, elle va transformer la vie du croyant. La justice, elle est absente, elle est pourvue, elle est reçue, elle est légitimée, elle est appliquée. Revenons à la question. Si c'est ce que Paul fait dans son exposition de l'Évangile, qu'est-ce qui est radicalement différent dans les derniers versets du passage que nous avons lu? Il y a quelque chose dans ces versets qui n'est pas encore apparu dans cette lettre. Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous ne voyez pas? Dans les versets 11 à 14, c'est la première fois dans cette lettre où Paul dit aux croyants qui sont à Rome qu'ils ont quelque chose à faire. C'est la première fois dans cette lettre que Paul dit aux chrétiens qui sont à Rome qu'ils ont quelque chose à faire. Paul a passé tout ce temps, tous les premiers chapitres, jusqu'au début du chapitre 6, à nous expliquer l'Évangile. Et là, maintenant, il parle de quelque chose à faire. Et la première chose qu'il leur dit, verset 11, « Regardez-vous comme étant mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est quelque chose sur lequel il faut s'arrêter, parce que c'est important. On ne se regarde pas avec ses mains ou avec ses pieds, mais on se regarde, on se considère avec son intelligence, avec son esprit. La première chose que l'apôtre est en train de dire, c'est que la première chose que nous devons faire en tant que chrétiens, et c'est quelque chose qui est valable toute notre vie chrétienne, alors que l'on essaye de comprendre, alors qu'on essaye de se saisir de la vérité, de l'évangile, dans toute sa plénitude, dans toute sa gloire, la première chose que l'on doit faire, c'est de réfléchir. C'est de réfléchir. C'est pour ça que plus tard, au chapitre 12, dans les versets 1 et 2, il va dire que le secret de la transformation de la vie par l'évangile se trouve dans l'esprit, dans l'intelligence. Ce n'est pas dans les émotions, même si les émotions sont touchées. Mais ce n'est pas dans la volonté non plus. Le secret d'une vie transformée se trouve dans le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et quand on commence à considérer ces choses, quand on se rend compte ce que cela veut dire, quand on médite ces réalités, quand ces choses commencent à imprégner notre intelligence, que nous sommes unis à Christ et que par cette union nous sommes morts au péché et nous sommes vivants pour Dieu, alors ces vérités vont produire les impératifs pour notre vie, verset 12, que le péché ne règne pas, verset 13, ne livrez pas vos membres au péché, la fin du verset 13, offrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Et ça, on va laisser pour la semaine prochaine, Dieu voulant. Aujourd'hui, nous allons voir simplement deux points, des considérations générales et des considérations particulières. Tout d'abord, des considérations générales, et il est toujours bon de se rappeler et que l'Évangile fonctionne d'une certaine manière. Ce n'est pas toujours la manière, pas toujours la façon dont on pense naturellement. Et c'est intéressant qu'on comprend cela quand on devient chrétien, au début de la vie chrétienne. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens oublient cette réalité durant leur vie chrétienne. Certains ont pensé que vivre une vie suffisamment décente pouvait les amener à se qualifier pour la grâce de Dieu. Mais quand ces personnes ont commencé à comprendre l'Évangile, à comprendre ce que Paul dit, notamment ici, alors ils ont compris qu'en réalité, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est la grâce de Dieu qui nous est donnée gratuitement en Jésus-Christ. Et c'est cette grâce qui va transformer la vie. C'est étonnant de voir combien souvent, quand on avance dans la vie chrétienne, on retourne à l'ancienne façon de penser. On va lutter, on va essayer de toutes nos forces de plaire à notre Père céleste. Et on perd de vue qu'il y a cet océan de grâce dans lequel Dieu nous appelle, nous invite à nous plonger pour que cette grâce nous soutienne dans notre marche quotidienne avec Christ. Et c'est pour ça que Paul a pris tout ce temps pour démontrer ce principe. Jusqu'ici, il n'a pas parlé de ce que les croyants devaient faire. Et c'est important de le souligner, parce que c'est ainsi que fonctionne l'Évangile. Et quand on comprend cela, quand on saisit cela, on réalise que beaucoup d'enseignements, beaucoup de littérature que l'on trouve aujourd'hui est en fait une réalité, une forme déguisée d'auto-assistance, de développement personnel. Et ce n'est pas l'Évangile. On va trouver des chrétiens qui sont occupés à essayer de reformuler leur vie. Ou alors ils sont presque morts, écrasés, parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'on leur dit de faire. Et la raison, c'est que trop souvent, on met la charrue avant les bœufs. On charge notre conscience ou on charge la conscience des autres avec tout ce que nous devons faire. Alors c'est vrai que nous sommes doués pour faire des choses. Nous sommes doués pour faire en particulier deux choses, parler et faire. Mais il y a une chose pour laquelle on est moins doué, c'est de nous plonger dans les richesses incomparables de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. C'est cette grâce qui va soutenir les impératifs de l'Évangile. La raison pour laquelle nous trébuchons, la raison pour laquelle nous tombons si souvent dans notre marche chrétienne, c'est cela. Nous chargeons notre conscience ou la conscience des autres avec les choses que nous devrions faire en tant que chrétiens sans nous appuyer sur le soutien de la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Cette grâce qui nous rend capables, cette grâce qui nous soutient et qui nous aide à faire ces choses. Et Paul prend le temps, il prend le temps pour, non pas pour leur dire « voici ce que vous devez faire », non, il prend le temps pour poser là sans arrêt la question « est-ce que vous comprenez l'Évangile ? Est-ce que vous voyez les implications de la grâce de Dieu ? Est-ce que vous vous êtes plongé dans cet océan de grâce qui est en Christ ?» Parce que quand cela se passe, quand on se plonge dans cet océan de grâce en Jésus-Christ, il y a deux choses. La première, c'est que nos vies commencent à être transformées par cette grâce et par la vérité. Et on commence deuxièmement à voir que la richesse de la grâce de Dieu en Jésus-Christ est suffisante. Suffisante pour me soutenir dans ce monde de ténèbres, suffisante pour me soutenir, surtout dans des moments de faiblesse. Mais cette grâce de Dieu en Jésus-Christ, elle est toute suffisante. L'Évangile qui doit transformer notre intelligence, notre esprit, et nous faire plonger dans cet océan de grâce pour que notre vie soit transformée. C'est dans ce sens. C'est pas l'inverse, c'est dans ce sens. C'est pour ça que Paul, après avoir passé tout ce temps à nous présenter l'Évangile, nous invite maintenant à dire, mais considérez-vous, regardez-vous comme étant mort avec Christ et vivant pour Dieu. Deuxième point, donc, les considérations particulières. Et là, on se rappelle le plan que nous avons soulever le plan qu'utilise l'apôtre Paul, où il parle tout d'abord de la proposition dans les premiers versets. Le chrétien est celui qui est uni à Christ, et par son union, il est mort au péché et ressuscité pour vivre en nouveauté de vie. Il va développer ce point, il va l'expliquer. Il arrive à sa conclusion, verset 11, « Maintenant que j'ai développé, que j'ai expliqué ces choses, considérez que cela est vrai. » Pour vous-même, c'est là où nous en sommes. C'est la suite de son argumentation. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez compris cela, dit Paul? Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que c'est ça la définition du chrétien. Je suis quelqu'un, si je suis uni à Christ par la foi, je suis quelqu'un qui est mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Quand on nous pose la question, qui êtes-vous en tant que chrétien? Est-ce que c'est notre réponse? Je suis mort au péché et vivant pour Dieu. Je ne fais plus partie de la famille d'Adam. J'ai été transféré de cette famille pour entrer dans la famille de Jésus-Christ. Je suis vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà comment nous devrions nous définir. Et le baptême est ce symbole, ce témoignage de ce qui s'est passé dans notre vie. Nous avons été ensevelis, nous sommes morts au péché, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui pour vivre en nouveauté de vie. devrions dire, voilà, j'étais en Adam, mais maintenant je suis en Jésus-Christ, je suis mort au règne du péché, même si je suis encore entouré par le péché, même si le péché est encore en moi. Je lutte contre ce péché, mais le point important, c'est que je suis mort à la domination du péché. Je suis ressuscité en nouveauté de vie. Je suis une nouvelle création, comme on l'a lu en 2 Corinthiens 5, verset 17. Je suis une nouvelle création en Christ. Est-ce que nous sommes prêts à prendre le temps pour réfléchir à ce que Paul nous dit ici? On peut prendre l'image d'une femme mariée au début de son mariage. Elle va parfois écrire automatiquement son nom de jeune fille avant de rectifier et pour écrire son nom de mariée. Elle a une nouvelle identité. Et Paul nous dit, rappelez-vous ce que vous avez déclaré lors de votre baptême. Vous avez déclaré votre union avec Christ dans sa mort et dans sa résurrection. Vous êtes mort à la domination du péché. Vous n'êtes plus sous l'autorité du péché. Vous êtes libéré en Christ. Vous êtes ressuscité pour une nouveauté de vie. Oui, le péché est encore présent dans notre vie, mais il n'est plus le maître, il n'est plus le roi. C'est maintenant le Seigneur Jésus-Christ qui est le roi. Et il faut passer du temps, il faut prendre le temps pour méditer, pour réfléchir, pour que ces choses viennent vraiment nous imprégner. Le docteur Martin Lloyd-Jones, qui a prêché sur ce passage, a prêché pendant 14 semaines sur ce passage, ça fait 2 mois et demi. Parce qu'il savait qu'il fallait prendre le temps pour aller au plus profond, pour que cela, pour ces réalités viennent s'imprégner, viennent nous imprégner. Nous devons réfléchir, ruminer, prendre le temps, demander à Dieu de nous aider à nous voir en Christ, à nous voir comme étant morts au péché et ressuscités en nouveauté de vie. Et quand on commence, quand on comprend cela, quand ces choses viennent nous imprégner, alors notre vie est transformée. Notre vie est vécue en conséquence. On ne recherche plus ce que l'on recherchait. Notre langage est différent parce qu'on ne fait plus partie de l'ancien royaume et on l'a compris. Et on fait maintenant partie d'un nouveau royaume, celui du Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, une autre question. Est-ce que nous souffrons d'une crise d'identité? Est-ce que nous souffrons d'une perte d'identité? Parfois, on peut être découragé par nos échecs. On peut être opprimé par ceux qui nous entourent. Parfois, on peut penser qu'à cause de quelque chose qu'on a dit ou quelque chose qu'on a fait, on a tout fait foirer, comme on le dit facilement. Parfois, on est tellement absorbé par nos luttes qu'on oublie en réalité qui nous sommes, et on a besoin de revenir à l'Évangile, besoin de revenir et nous plonger dans ce que Paul nous dit, dans la parole de Dieu, et de demander à Dieu de nous aider à saisir la puissance de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Cette grâce qui nous fournit un fondement solide, qui nous soutient, qui nous permet de nous regarder comme quelqu'un qui a été transformé de façon radicale, de sorte que nous ne sommes plus sous la domination du péché. Bien entendu, l'adversaire viendra nous glisser à l'oreille, que, surtout quand nous chutons, il va nous dire, mais si, tu es encore sous la domination du péché. Et là, nous pouvons nous le dire, non, au contraire, je ne suis plus. Je suis en Christ. Je ne fais pas plus partie de la famille d'Adam. Je suis en Christ. Je suis mort au péché, ressuscité en nouveauté de vie. En fin de compte, la vie chrétienne, ce n'est pas d'abord quelque chose que je fais. Même s'il y a beaucoup de choses à faire, même s'il y a Effectivement, comme Paul le dit dans sa lettre aux Éphésiens, il y a des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais la vie chrétienne, c'est d'abord quelque chose qui a été fait à moi. Bien sûr, Paul dira que nous devons mettre en œuvre notre salut, travailler à notre salut avec crainte et tremblement, Philippiens 2, versets 12 et 13. Mais nous le faisons seulement parce que Dieu a été à l'œuvre en nous. C'est Dieu qui produit en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Et voilà ce que Paul dit avant d'arriver à ces impératifs. La première chose que nous devons faire, après avoir passé tout le temps à expliquer l'Évangile et la merveille, la gloire de l'Évangile, la première chose, nous dit Paul, regardez-vous. Regardez-vous ainsi vous-même, verset 11. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà la première chose. Regardez-nous. Prenons le temps de comprendre ce que Paul nous dit dans ce passage sur lequel nous avons passé ces quelques semaines. Regardons ce que Paul, méditons sur ce que Paul a dit. Regardons-nous si nous sommes à Christ. Nous sommes, voilà ce que nous sommes. Voilà la définition de ce que nous sommes si nous sommes chrétiens. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, parce que c'est en nous considérant comme étant morts au péché, vivants pour Dieu, que nos vies changent, que nos vies sont transformées par la grâce qui agit en nous. Et parce que nous nous plongeons dans cette grâce de Dieu en Jésus-Christ. Et Dieu voulant, donc, nous reviendrons sur le verset 12 à 14 la prochaine fois. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs ce matin. Amen.